À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Rada Atem-Ganzer, gynécologue obstétricienne, responsable de la Maison des Femmes de Saint-Denis.
Quatrième épisode, à la Maison des Femmes. Bonsoir Rada Atem.
Bonsoir Caroline.
Pour ce quatrième temps ensemble, nous sommes venus chez vous dans votre deuxième maison, à moins que ce soit la première maintenant parce que vous y passez beaucoup de temps, dans cette Maison des Femmes que vous avez fondée en 2016 et sur laquelle nous allons revenir, sur la genèse de cette Maison des Femmes, qui est un lieu d'accueil, de consultation, de prévention, d'orientation pour toutes les femmes en difficulté, qu'elles soient confrontées à une grossesse non désirée, à des violences conjugales, au mariage forcé, à l'excision. C'est la première structure en France qui prend en charge de façon globale, c'est-à-dire médicale, sociale, juridique, psychologique, post-traumatique, les violences faites aux femmes, violences dont vous nous avez parlé dans le troisième épisode, c'est-à-dire hier. Nous sommes installés dans une salle de consultation, j'ai l'impression, dans cette Maison des Femmes. Dans une salle Malala Yousafzai, du nom de cette jeune militante pakistanaise, prix Nobel de la paix en 2014. Je crois que toutes les salles de cette Maison des Femmes portent un nom de défenseur des droits des femmes. Il y a... c'est vous qui allez nous le dire. Il y a qui ?
Ouh, je m'en souviens plus, il y a tellement de portes. Mais oui, des défenseurs ou des gens qui ont agi. Par exemple, Lucien Neuwirth.
Ah oui, ça, on commence par l'homme. Il y en a un deuxième, il y a Denis Mukwege.
Il y a Denis Mukwege, voilà. Lucien, c'était important parce que la contraception, on la lui doit beaucoup. Et c'est vrai que la plupart des autres figures sont des femmes, bien sûr.
Simone Yves, Angela Davis, j'ai noté,
Bravo.
Salimi, oui. Manasrin,
des choix perso. John Baez, voilà, je trouve que John Baez est une militante. On la qualifierait pas immédiatement de féministe, mais la paix, pour moi, c'est un combat important que les femmes doivent porter. Elles le portent très bien. C'est aussi donner des modèles à ces femmes parce qu'il y a de tout. Et puis je vous emmènerai, si vous êtes sage, tout à l'heure là-haut dans notre salle de bal, où il y a une très jolie fresque avec encore d'autres femmes, dont Marie Curie, qui est ma préférée, qui ont apporté quelque chose d'important à l'humanité.
Alors racontez-nous quel est le point de départ de cette Maison des Femmes.
Mais la genèse, c'est comme souvent, les bonnes idées, une succession de difficultés. J'allais dire de malentendus, non, ça serait excessif. Mais partir d'un besoin identifié comme, les femmes vivent des choses très violentes. Bon, les hommes et les enfants aussi, c'est évident. Mais peut-être les hommes pas dans la même proportion. Et ces choses violentes impactent leur santé. Nous sommes des soignants, donc nous devons faire quelque chose de cette violence. Et c'est là où je me suis dit qu'un lieu dédié aurait du sens. Un lieu qui soit le réceptacle, en fait, de cette violence et du mal-être qui en résulte. Ce type de lieu n'existait pas dans les hôpitaux, mais pourtant nous avons énormément de parcours de soins, que ce soit pour le diabète, le cancer, la stérilité, etc. Mais il n'y avait pas de parcours violence. Et là, je me suis dit, tiens, voilà une idée à tester. Et j'avais au début pas d'ambition particulière, si ce n'est de trouver un endroit, parce que je suis convaincue que les lieux créent l'opportunité. C'est-à-dire que si on vous dit oui, allez au troisième bureau là-bas, ça donne pas exactement la même implication que en fait on a construit un lieu et ce lieu il est pour ça et il est pour vous. Et on a vu au cours de toutes ces années que ce message fonctionnait parfaitement bien avec les femmes victimes. Et donc j'ai besoin d'un lieu, je n'en ai pas. Donc je vais pleurer chez ma directrice de l'époque, avec laquelle je m'entendais très bien, et qui me dit non, il n'y a pas de place dans l'hôpital, je suis désolée. Et puis qui finalement me dit écoutez, il y a un parking là-bas, un terrain vague, si vous voulez, je vous le confie, mais ne comptez pas sur moi pour vous donner des sous, parce que j'en ai pas. Et c'est de là qu'est partie en fait une démarche radicalement nouvelle pour moi, de me dire t'as un lieu, t'as une idée, t'as pas de sous, comment tu fais ? Et de me dire, il y a des gens qui ont des sous. Je vais essayer de leur demander, très très naïvement. Et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai fait énormément de démarches, vaines la plupart du temps. Jusqu'à, mais comme toujours, vous voyez, qu'est-ce qu'il disait ça ? Donnez-moi un point et puis je soulèverai le monde. Jusqu'à trouver la faille, l'endroit où j'ai pu glisser mon pied. Et il se fait que c'était la Fondation Kering avec laquelle j'ai accroché très rapidement, qui a cru en mon projet et qui a été mon tout premier soutien et qui est encore mon soutien. Et grâce en fait à cette intrusion dans le monde du mécénat, dans le monde des fondations privées, dans le monde des grandes entreprises qui n'est pas du tout le mien, eh ben j'ai pu réunir suffisamment d'argent pour construire la première maison, et qui est celle où nous sommes aujourd'hui, que j'ai pu agrandir 2 ans après, au travers d'une nouvelle levée de fonds. Et on dit toujours l'argent appelle l'argent, et c'est vrai, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que pour construire la première, ça a été mais un cauchemar, une galère. Et au moment où j'ai dû m'agrandir, donc lever exactement la même somme pour doubler de surface, les choses étaient beaucoup plus faciles. Parce qu'on me faisait confiance, parce que j'avais fait la preuve que mon truc fonctionnait. Et c'est un peu difficile de se dire qu'en fait, tant qu'on n'a pas fait la preuve que votre idée était bonne, ben vous ne trouverez pas beaucoup de soutien. Et il y a une petite anecdote que j'aime bien autour de ça, c'est qu'en fait, je me disais, bon, alors moi je vais voir les gens avec toute ma bonne volonté, je leur explique ce que je veux faire, mais j'ai rien à leur montrer. Et les gens, ils ont besoin de voir pour croire. Et donc un soir, je dînais avec un ami architecte, je lui dis, tu voudrais pas me faire 3 croquis là, parce que comme ça, je pourrais dire aux mécènes, voilà, je voudrais construire un truc comme ça. Il me dit, mais explique-moi ce que tu veux faire. Donc je lui explique, je lui donne les chiffres de la violence, tout ça. Il réunit sa boîte d'archi, il brainstorm pendant une semaine, il revient me voir avec des croquis magnifiques, il me dit, tu sais, ils étaient tellement choqués, tellement émus, qu'ils ont bossé tous les soirs, toute la semaine, gratos, pour toi. C'est joli, non ?
C'est joli. Et c'est à peu près aussi joli que la maison est jolie, parce que vous tenez, je l'entends, à cette dénomination de maison des femmes. C'est réellement une maison dans laquelle on est, avec un toit de maison.
C'est la suite de l'histoire de mon architecte. Parce qu'il me fait des propositions magnifiques, des trucs avec une espèce d'utérus, et puis c'est que j'aime les plantes, il m'avait fait des jardins suspendus. Je dis, mais ça, je vais jamais pouvoir construire ça. Et puis il me montre ce croquis avec une maison qui était le moins cher de tous. Et je dis, mais voilà l'idée de génie, une maison. Mais en même temps, ça induit de la confusion parce que personne ne dort ici. Mais le côté rassurant, sécurisant de la maison, ça, les femmes, elles l'ont compris tout de suite.
C'est une maison qui jouxte l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, où vous avez travaillé, on en a parlé hier. Et donc, dans l'hôpital, il y a une maternité, ce qui suppose qu'ici, à la maison des femmes, il n'y a pas d'accouchement.
Non. Ici, on fait déjà de l'accueil. On prend en charge la santé des femmes. Les femmes victimes de violences ont tendance à négliger leur santé, premièrement. Elles n'ont pas le temps, elles ont autre chose à s'occuper. Quand elles ont un peu de temps, elles vont s'occuper de leurs enfants. Et donc déjà, on fait un point sur tout ce qu'elles n'ont pas fait, frottis, mammos, état de santé global. Parfois, elles ont des maladies qu'elles ne font pas suivre, un diabète qu'elles vont pas faire suivre régulièrement, plein d'autres petits problèmes de santé. Ensuite, on s'occupe de leur santé mentale parce qu'elles sont toutes déprimées, en état de stress, à des degrés divers. Donc elles voient des psychologues, des psychiatres, de leurs problématiques sociales. Donc nous avons 2 assistantes sociales. Et ensuite, on leur offre des groupes de parole, on leur offre des ateliers. Si vous êtes promené, vous avez peut-être vu notre plaquette avec nos 12 ateliers, on en est très fiers.
Karaté, théâtre, réparer l'intime.
Oui, très joli atelier.
Qu'est-ce qu'on fait dans l'atelier réparer l'intime ?
Alors, c'est notre tout premier atelier. Il est animé par une dessinatrice, créatrice de bijoux et une photographe. Elles se sont rencontrées ici, elles sont devenues super amies et elles ont décidé de créer cet atelier ensemble. Et les femmes, en fait, se dessinent. Elles créent des bijoux, elles portent les bijoux. Et ensuite, Louise, la photographe, les prend en photo. Elle les maquille. Et ce qui est très joli avec cet atelier, c'est que c'est le premier qui nous a montré en fait comment les femmes pouvaient progresser. Parce que Louise les prend en photo la première fois qu'elles viennent. Et très souvent, elles ont les épaules voûtées, un bonnet jusqu'à la racine du nez, la mine terreuse, totalement ratatinée. Et puis elle les prend en photo 6 mois après et elle montre l'évolution. Et les femmes sont toujours stupéfaites. Et disent, oh, mais regarde, j'étais comme ça quand je suis arrivée. Et regarde comme je suis. Et ça a aussi un impact sur les autres, les nouvelles. C'est hyper encourageant, hyper motivant. Il se passe énormément de trucs dans cet atelier. Ça a donné lieu à un très joli bouquin qui s'appelle « Réparer l'intime », que je vous recommande.
C'est aussi une maison très colorée quand on arrive de l'extérieur. Elle a toutes sortes de couleurs. C'est un véritable arc-en-ciel. Vous avez tenu à ce que ce soit gai.
Oui. Alors j'ai laissé une grande latitude à ce cabinet d'architectes qui avait été tellement chouette et ils m'ont fait des propositions. Ils ont très vite compris qu'on voulait pas ressembler à un hôpital et qu'on voulait que immédiatement les femmes adoptent l'endroit. Et le pari est complètement réussi. C'est-à-dire, j'ai même des patientes qui me disent « Oh ben en fait, j'avais aucun rendez-vous aujourd'hui, mais ce matin, en me levant, j'avais pas le moral. Eh ben, je me suis venue m'asseoir dans la salle d'attente et je vais beaucoup mieux. C'est bien. »
Comment elles savent que ce lieu existe ? Est-ce que dans l'hôpital, on communique ? Est-ce qu'elles passent devant ? Est-ce que c'est du bouche à oreille ? Comment savent-elles qu'il existe aujourd'hui ?
Il y a plein de canaux aujourd'hui avec... en fait, les femmes, même les plus précaires, sont très connectées. Et les smartphones ont fait beaucoup, en fait, pour rompre l'isolement et pour donner de l'information. Donc, elles viennent de partout. Soit c'est leur assistante sociale, soit c'est un médecin d'hôpital, soit c'est la mairie. Parfois, elles disent « j'ai entendu un podcast », elles ont lu un truc dans le journal, on a eu pas mal d'émissions télévisées, on a été assez médiatisées, donc ça fait le job. Et puis le bouche à oreille, ma copine, ma voisine, mon médecin, ça fonctionne extrêmement bien. Et puis il y a des femmes qui viennent, par exemple, comme on est un centre de planification familiale, elles viennent pour une IVG, et puis bah, c'est écrit partout, ici on s'occupe de la violence, ici vous pouvez parler, il y a des flyers des partout. Et donc elles peuvent revenir en disant bah, en fait, ok, maintenant j'ai avorté, mais j'ai d'autres problèmes. Ça, c'est si on les a pas branchés sur leurs problèmes la première fois. Et ça, on n'a eu aucun problème de recrutement, en fait. Très, très vite, on a été submergés.
Ça veut dire qu'il y a des femmes que vous suivez dans le temps, dans un temps long, qui reviennent?
Oui, c'est le principe de cette prise en charge, c'est que il y a une évaluation première de vos besoins et ensuite on vous propose un parcours de soins. Et ce parcours de soins consiste à être suivi par le médecin ou la sage-femme, le psychologue, la psychiatre, aller à des groupes de parole, aller à des ateliers et puis revoir votre référent tous les mois, tous les deux mois pour ben, est-ce que ça va mieux ? Est-ce que aujourd'hui est-ce que vous êtes prête à déposer plainte ? Non, ben, c'est pas grave, on reverra ça le mois prochain. Est-ce que vous avez vu l'équipe juridique parce que vous avez peut-être besoin d'être accompagné? L'équipe juridique va vous mettre en lien avec un avocat qui va accepter de vous défendre. Et donc, tout ça prend du temps, bien sûr. Il y a des femmes qu'on suit alors depuis le début, mais ces femmes-là, on essaye de les accompagner un peu vers la sortie parce que si on n'a pas des fins de parcours, on ne peut pas rentrer de nouvelles femmes. Ça, c'est très compliqué.
La Maison des Femmes, Rada Hatem, accueille entre 50 et 80 femmes par jour. Elle assure près de 15 000 consultations par an. Qui vient ? Est-ce qu'il y a un profil sociologique type ?
Non, les gens pensent tous qu'il y a un profil sociologique des victimes et en fait, pas du tout. Pourquoi ? Mais parce que les agresseurs sont de toute origine sociale. Et évidemment, ça va peut-être pas se voir de la même façon, c'est-à-dire que quelqu'un qui est professeur, avocat, médecin va s'arranger pour exercer une violence qui laisse assez peu de traces. Et la plupart du temps, ce sont des violences psychologiques, mais assez sévères, avec de la coercition, du contrôle, de l'emprise, mais qui physiquement ne se voit pas beaucoup. Et donc on a à la fois des migrantes arrivées il y a 3 jours, et on ne sait pas trop comment elles nous ont trouvées, qui ont vécu de la violence dans leur famille, avec leur mari, sur leur parcours migratoire, en arrivant en France. Donc un continuum, tout comme on a des femmes très insérées dans la société et qui sont extrêmement mal à l'aise parce que pour elles, dans leur milieu social, extrêmement difficile de dire en fait, tu sais pas ce que je vis à la maison, mais cet homme-là, si respecté, si diplômé, si charmant, une fois que la porte est fermée, est un monstre. Mais comme j'ai pas de traces et qu'il donne très très bien le change, ben, personne ne le sait.
Vous diriez que le point commun de toutes ces femmes, c'est l'intranquillité ?
C'est l'emprise, c'est la dépendance, c'est la vulnérabilité. Parfois, ces femmes ont des vulnérabilités de leur enfance. Pas forcément très graves, mais qui les ont un peu fragilisées.
Déjà, on entend, pardon de vous interrompre, mais que souvent les parcours violents commencent très tôt. On commence à entendre parler d'adolescence difficile, de sexualité.
D'enfance.
Et d'enfance, évidemment. Hein, mais je veux dire, quand on commence la sexualité, même quand elle est soi-disant choisie, certaines jeunes filles souffrent déjà dès les premiers rapports sexuels. Et ça, jusqu'à présent, on ne le disait pas beaucoup. Donc on voit bien que ça peut être très très long. Hein.
Ce qu'on ne disait pas, surtout, parce que encore les rapports sexuels, le commun des mortels peut imaginer, oui, elle n'était pas consentante, etc. Ce qu'on savait moins, c'est qu'on peut avoir des couples ados extrêmement toxiques. et que il y a des garçons qui déjà sont des agresseurs et déjà mettent leur petite amie sous leur coupe, la maltraitent, l'humilient et parfois la prostituent.
Vous en voyez plus ou moins qu'avant ?
Plus.
Vous en voyez plus qu'avant ?
On en voit plus, mais peut-être aussi parce que, un, on est plus à l'aise pour les dépister, et deux, elles ont plus confiance pour parler. C'est quelque chose qui a progressé en parallèle.
Elles se confient facilement, les femmes, puisque c'est un lieu avant tout dédié à la parole. Donc, quand je vous entends parler, justement, on entend que c'est très important, que d'abord, c'est l'écoute, hein, ici.
Absolument.
Donc, est-ce que les femmes se confient ? Elles ont confiance ?
Oui, il y a déjà un biais de sélection, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire qu'une femme qui vient ici, elle sait à peu près pourquoi elle vient ici.
Elle sait ce qu'elle vient chercher qu'elle ne trouvera pas ailleurs.
Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous exercez de la même manière, mais dans une consultation standard, une consultation de gynéco, une consultation de médecine générale, et que vous posez la question aux femmes, mais elles se confient aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un leur montre que ce sujet est important et qu'il est prêt à entendre, elles vont se confier. Ce qu'elles ont expérimenté toute leur vie, c'est « je ne te crois pas ». Et ce que tu dis n'est pas vrai. Que ce soit enfant, quand elles se sont plaint que tonton mettait son doigt dans leur culotte, ou quand elles ont été plus âgées, qu'elles ont dit même à leurs parents « mon mari me maltraite » et que les parents ont dit « non mais maintenant t'es mariée, t'as des enfants, tu retournes chez toi, ça va comme ça ». Elles sont jamais crues. Quand elles vont à la police, c'est pareil. On va mettre leur parole en doute. Est-ce que vous êtes sûr que vous ne lui avez pas laissé entendre que vous aviez envie de coucher avec lui ? Ben non. Et ici, elles savent que en fait, on va les croire. Et ça fait une bonne partie du job.
Vous parliez des enfants, des maltraitances faites aux enfants, et des enfants de couples toxiques, il y en a malheureusement extrêmement souvent, et beaucoup. Est-ce que vous voyez des enfants ? Est-ce que les femmes viennent parfois avec des enfants ici ?
Oui, les femmes viennent avec leurs enfants, ce qui nous a amené d'ailleurs à organiser une petite prise en charge, évaluation pour les enfants. Mais oui, alors j'étais hier dans un colloque de pédiatrie et il y a une pédiatre qui a prononcé ces mots qui m'ont vraiment frappée. Elle a dit « un pédiatre verra dans sa vie plus d'enfants maltraités que d'enfants diabétiques et plus d'infanticides que de méningites ». Donc ça pose le décor. Donc elles viennent avec leurs enfants, on voit rapidement que ces enfants ne vont pas bien, ils sont hyperactifs, ils sont ingérables, et parfois ils sont ce que décrivent les thérapeutes, par exemple l'enfant qui tout de suite vient se mettre sur les genoux de la psychologue ou du médecin, sans limite, sans structure. Et du coup, on a décidé d'ouvrir une consultation de pédiatrie avec une pédopsychologue aussi, et cette consultation en binôme qui est dédiée aux enfants de nos patientes, elle nous sert surtout à évaluer l'impact de ce que vivent ces enfants chez eux. Avant on disait, oui, les enfants n'entendent rien, comprennent pas, non mais on s'engueule jamais devant eux, bien sûr, vous pensez bien que les enfants, ils ont déjà tout compris, et donc ça permet de savoir si cet enfant est en danger, en fait, c'est ça qu'on veut savoir. Et est-ce qu'il faut le signaler au procureur ou est-ce qu'il faut le signaler aux services sociaux ? Qu'est-ce qui se passe ? Et l'idée, c'est comment on peut aider. Parfois, c'est pas forcément qu'il faut retirer l'enfant de la famille, mais parfois, il faut le retirer parce qu'il est vraiment en danger.
Je disais tout à l'heure que la Maison des Femmes accueille entre 50 et 80 femmes par jour. Nous sommes en 2022. Elle a ouvert en 2016. Est-ce que ce nombre est constant, stable, ou en augmentation, ou en baisse par rapport au début ?
Il a beaucoup augmenté, puisque entre l'ouverture et aujourd'hui, effectivement, ça a augmenté très vite. Là, on est à peu près stable. On essaie de stabiliser, en fait, parce qu'on essaie de réorienter. On peut pas accueillir tout le monde, personne. Et comme il y a de nouvelles maisons des femmes qui se sont créées, notamment à Paris, autour de Paris, eh bien, dès qu'une femme habite par là, on va plutôt la renvoyer. Mais je crains que les autres maisons ne commencent, elles aussi, à être en saturation, donc il va falloir en ouvrir encore d'autres.
Quid des hommes ? Est-ce que des hommes viennent parfois ?
Des hommes viennent parfois dans deux cas principaux. Certains hommes accompagnent leurs femmes dans les consultations d'excision. Parce que, alors c'est intéressant parce qu'on peut le voir comme un verre à moitié vide ou comme un verre à moitié plein. Ça peut être j'ai tellement envie que ma femme soit épanouie, je suis triste d'être le seul à avoir du plaisir, j'ai envie qu'elle se fasse opérer pour elle. Ou bien j'en ai marre de faire l'amour avec quelqu'un que ça n'intéresse pas et j'aimerais bien qu'elle se fasse opérer. Donc on a les deux cas de figure. En tout cas pour les femmes c'est parfois important que leur homme soit là et les soutienne. On a des hommes qui accompagnent leur petite amie pour une demande d'avortement et qui sont concernées par cet acte et par cette décision. Et ça, c'est plutôt très, très sympa. On a très rarement des hommes qui viennent chercher des infos. Ils savent que leur femme est passée par là. Ils veulent savoir ce qu'elle a dit, où elle est, qu'est-ce qu'on a fait. Bon, mais ça, évidemment, on aime moins. Et puis, une fois, on a reçu un homme victime de violence. Mais une seule fois.
Comment ça se passe du côté de l'organisation, du côté du personnel soignant? Alors déjà, je crois qu'il y a 3 unités au sein de la Maison des Femmes.
Toujours dans cette idée de parcours de soins, on en a identifié 3 principaux, on vient de rajouter un 4e, donc le centre de planification familiale, mission grossesse, avortement, contraception, intervention scolaire, l'unité mutilation sexuelle, repérage, pédagogie, chirurgie si besoin, et l'unité violence, donc conjugale, sexuelle. À l'intérieur de cette unité, on en a identifié une plus spécifique qui est l'inceste, parce qu'on a des femmes de 50 ans, par exemple, qui, à l'occasion d'une lecture ou bien même d'une émission télévisée, par exemple, pensaient que l'inceste qu'elles avaient subi, bon, bah, elles avaient géré, elles avaient bien enfoui ça quelque part, et puis là, ça se réveille, et elles ont très mal, et donc elles viennent. Et depuis un mois, on a ouvert une unité viol, 24 heures sur 24, c'est la seule unité qui est ouverte la nuit, pour les femmes qui, on ne sait pas à quelle heure on est violée, et qui peuvent venir ici pour avoir un examen, pour qu'on fasse des prélèvements, qu'on conserve les prélèvements, qu'on appelle la police, et qu'ensuite on leur offre un accompagnement psychologique sur le moyen terme.
Combien de personnes travaillent à la Maison des Femmes?
On est une cinquantaine de salariés ou d'intervenants auprès des patients, mais avec des temps divers, une fois par semaine, deux fois par mois, tous les jours. Et puis on a une cinquantaine de bénévoles aussi, de toutes sortes, dans la com, des graphistes, des juristes, de toutes sortes de gens qui apportent des compétences, du temps, de la chaleur à toutes nos activités.
Il y a même des policiers. Quel est leur rôle ?
Alors c'est une innovation, leur rôle est de prendre les plaintes comme dans un commissariat. La seule originalité c'est qu'ils ne sont pas au commissariat, ils sont dans cette jolie maison. Et l'objectif était de faciliter le dépôt de plainte. Beaucoup de femmes ne vont pas au commissariat, elles savent que c'est pas des endroits très bienveillants, qu'elles ne seront pas forcément bien reçues. Et parfois elles ont des expériences négatives, donc ça les rebute. Et quand on leur propose de voir un policier ici, elles sont la plupart du temps d'accord, parce qu'elles se sentent en confiance, parce qu'elles savent que l'équipe est là, que si jamais ça se passe pas bien, on viendra en soutien. Et ce qui est intéressant, c'est que les policiers aussi sont très contents, parce que justement c'est un endroit agréable, plaisant, calme, ils sont pas comme au commissariat sous pression. Et donc on a un partenariat avec le commissariat central, et on a un policier qui vient toutes les semaines prendre des plaintes, c'est jamais le même. Il vient en civil, il n'a pas d'armes. Et effectivement, il a tout son temps. C'est-à-dire qu'un dépôt de plainte pour viol, j'en ai vu qu'il restait 8 heures avec la victime. Parce qu'il y avait énormément de détails. Puis il fallait faire des pauses, parce que c'est long, c'est lourd.
Est-ce que les salariés de cette Maison des Femmes sont formés, ont reçu une formation particulière pour pouvoir y travailler, accueillir ces femmes et les écouter, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident, je suppose aussi, de l'autre côté.
Alors, un, ce n'est pas évident, et deux, ça n'est pas possible sans formation, c'est clair. Donc, toutes les personnes qui travaillent ici sont formées par nos soins, ou certaines ont fait des diplômes universitaires de violence ou de maltraitance à enfants ou autres. Et nous offrons 2 fois par an une formation ouverte à différents publics. Et les salariés de la maison ont la possibilité aussi de retourner pour un petit rappel, de revenir participer à ces journées. Et c'est très important parce que ça permet aussi de rencontrer d'autres équipes et de refaire le point. Et puis on a beaucoup de séances ici. On invite des gens, par exemple, récemment on a invité une avocate qui défend la notion de suicide de forcer, qui est venue former l'équipe sur ce concept un peu nouveau de, oui, les femmes sont tuées par leur conjoint, ça s'appelle un féminicide, mais il y a des femmes qui se suicident parce que leur vie avec un conjoint violent est impossible, et il y en a 2 fois plus que des féminicides, ce qui augmente en fait beaucoup, beaucoup le nombre de mortes du fait de la violence.
Est-ce que le fait que cette maison se soit agrandie est une bonne nouvelle? Est-ce que le fait que la maison des femmes de Saint-Denis a fait des petits d'une certaine façon, puisqu'il existe des maisons des femmes ailleurs en France, pas seulement autour de Paris, hein, mais dans d'autres villes de France, et même peut-être aussi dans le monde, je crois. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, au fond?
Oui, c'est clairement une bonne nouvelle. Il faut bien se remettre dans le contexte. C'était quelque chose d'assez expérimental. Je n'ai pas construit quelque chose d'adapté aux besoins. J'ai construit quelque chose qui correspondait à l'argent que j'avais dans ma poche. Peut-être que si j'avais eu beaucoup plus d'argent, j'aurais d'emblée fait beaucoup plus grand. Et le fait de devoir nous agrandir, ça a simplement montré qu'en fait, le public était là. Cette maison était attendue, quelque part, puisqu'elle a immédiatement trouvé son public. Après, il faut voir loin. Peut-être que dans 50 ans, on n'en aura plus besoin. Mais je pense que dans les 50 ans qui viennent, on n'est pas prêt d'être au chômage. Et j'en suis la première à être désolée. Hein.
Pour l'instant, c'est un modèle? C'est un modèle de médecine et de prise en charge globale de la violence qui fonctionne?
Il suffit de voir le nombre d'équipes qui sont venues vers nous pour qu'on les accompagne dans la duplication, le nombre de politiques qui viennent à la maison pour comprendre comment ça marche, le nombre d'élus qui en veulent une dans leur ville, c'est absolument ahurissant.
Il y a eu une bande dessinée faite autour de la Maison des Femmes, dans la Maison des Femmes, hein, en immersion à la Maison des Femmes de Nicolas Wild, il me semble. Il y a un podcast aussi que la Maison des Femmes de Saint-Denis a lancé, intitulé « Réparer les violences ». On sent le besoin aussi de se faire connaître. Et à un moment, dans cette bande dessinée, l'auteur parle de Gaëlle Strack, qui a fondé le San Diego Family Justice en 2002. Est-ce que c'est l'ancêtre de la Maison des Femmes?
Alors, je ne connaissais pas les Family Justice Centers quand j'ai ouvert la Maison des Femmes. J'avais fait une petite recherche. J'avais donc découvert qu'il y avait des Maisons des Femmes au Québec, par exemple, mais qui sont des foyers d'hébergement, des lieux de mise en sécurité. Et j'avais pas trouvé ces Family Justice Centers que j'ai rencontrés après. Et oui, Nicolas en parle parce que je l'avais invité à une conférence de Gaëlle Strack qui l'avait beaucoup impressionnée parce que c'est une avocate, en fait, qui a travaillé sur la strangulation. Elle est championne du monde, plus calé qu'un médecin légiste, je crois. Et cette conférence était assez saisissante parce que elle maîtrise vraiment son sujet. Et c'est elle qui, à partir des constats de féminicide et de violence, a conçu ce modèle, mais qui est très médico-légal et pas médical.
Il y a une marraine de cette Maison des Femmes qui a été elle-même excisée et réparée, qui est une actrice et chanteuse malienne, Ina Modja. C'est la marraine de ces lieux.
Et activiste, et top modèle. C'est une femme qui a des dizaines de cordes à son arc.
J'aimerais bien qu'on écoute une chanson d'Ina Modja. Une fois n'est pas coutume, pour terminer cette émission, cette à voix nue, on va écouter une chanson. Et puis je vous dis à demain pour la dernière.
À demain, Caroline.
Bonne soirée.
Ah, ben, y a celle où elle chante a cappella, qui est absolument, mais sublime. Je vais vous trouver ça. Oui, c'est Diarabi. Alors, elle ne chante pas toujours a cappella, mais...
Aïe, ya farema, imma lo, Diarabi manibo. Aïe, ya farema, imma lo, Diarabi manibo.
C'était à voix nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Virginie Lorda, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.
Jarabi donando sulla co junitle hakliberi pilla mirite seca boila adunan tama chobella jarabi man adunan flali chobella jarabi man ka adunan kuma chobella jarabi man adunan miri chobella jarabi man ko sente jarabi fe bollo te jarabi fe nadoni golola afurate dogo torofe afurate dogo torofe Afurate dogo torofe Munkerilla jarabi Munkerilla nidumbele fe Munkerilla jarabi Munkerilla nidumbele fe kasi kana hamin jarabi kusum ikana dimi ikana kasi kana hamin jarabi kusum mkerila jarabi mkerila nedumele fe mkerila mosheri. Funny man, in my Lord, I've been money, boy.